Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Stephen Dreyfus est notre invité, avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York et ancien président de l'Union internationale des avocats. Bonjour Stephen Dreyfus.
Bonjour.
Plus de 70 jours que Donald Trump est à la Maison-Blanche. Ce qui nous intéresse avec vous, Stephen Dreyfus, c'est d'avoir le regard de l'Américain que vous êtes sur ce qui se passe dans votre pays. On assiste à un basculement géopolitique depuis le début de la mandature de Donald Trump aux États-Unis, avec des conséquences importantes sur les relations internationales construites depuis la guerre. Sur le plan intérieur, affaiblissement des contre-pouvoirs, congrès, justice, presse, l'essence démocratique du système politique américain apparaît menacé. Cette semaine a été marquée par l'annonce de la montagne de nouvelles taxes sur les produits entrant aux États-Unis. On va en parler. On commence sur le plan intérieur. Afin que vous nous donniez votre analyse des premiers pas de Donald Trump à la Maison-Blanche, comment est-ce que le peuple américain accepte les mesures prises par son président, démantèlement de pans entiers de l'appareil administratif? Depuis le 20 janvier, jour de l'investiture, chaque jour apporte son lot de nouvelles. C'est une stratégie, Stephen Dreyfus?
Oui, de toute façon, si on compare à la première administration Trump de son premier mandat, il a été cette fois-ci bien mieux préparé pour prendre le pouvoir. Donc il y a eu des équipes, évidemment, qui ont travaillé longtemps et ont préparé les décrets présidentiels qui allaient émettre en série pour suivre sa stratégie d'inonder la zone, c'est-à-dire de que l'opposition soit tellement déboussolée et désemparée pour répondre, parce qu'il y avait tellement de décrets en même temps qu'ils étaient plus faciles à faire passer. Donc il a fait ça, il a fait, je crois, jusqu'à présent, plus de 125 décrets présidentiels. Pour la plupart des Américains en vie aujourd'hui, c'est du jamais vu. Ça fait renaître un peu la présidence impériale dont on parlait aux années 60 et 70, où il y a le Congrès qui s'efface comme contre-pouvoir, même si on a la séparation de pouvoir à la Montesquieu, c'est quand même le Congrès, puisqu'il est désormais, jusqu'à l'année prochaine, dominé dans les deux chambres par le parti républicain, le parti de Donald Trump, ils s'effacent complètement et ils acceptent tout ce que fait Donald Trump. Et donc ça laisse uniquement la branche de la justice pour contrôler un peu l'action du président, mais cette branche-là est quand même limitée parce qu'elle doit attendre que les gens emmènent, la saisissent pour déterminer la constitutionnalité des différents actes de Donald Trump. Mais c'est un grand changement. Et du jour au lendemain, on n'a jamais vécu une transition qui n'en a pas une entre un Joe Biden qui a été en déclin et un Donald Trump qui a fait campagne sur les choses qu'il allait faire et qui dit actuellement, moi, je ne fais que tenir mes promesses. Sur un certain nombre de sujets qu'on va aborder sans doute, les gens sont contents du fait que, enfin, c'est une politique qui tient ses promesses, mais il va plus loin que ça.
Alors, des promesses, et certaines d'entre elles sont particulièrement douloureuses avec les licenciements en masse qui ont cours depuis le 20 janvier, Stephen Dreyfus.
Sur le plan humain, les Américains sont gênés, je dirais, par le côté humain de ce qu'il fait, parce que ça donne l'impression d'être complètement aléatoire et ce n'est pas lié à la performance d'une personne ou une autre, c'est général. Mais quand je dis tenir ses promesses, il a fait campagne principalement sur l'économie et l'immigration. Et donc, sur l'immigration, je crois que même les sondages indiquent que même cela dépasse les partis, que la plupart des Américains étaient de l'avis qu'il fallait faire quelque chose pour contrôler notre frontière sud. Et donc, il a fait des choses qui sont extravagantes et certaines qui sont dites anticonstitutionnelles, comme les cours l'ont trouvé. Mais quoi qu'il en soit, en Amérique profonde, on soutient ce genre d'activité. En revanche, sur le côté de l'économie, il s'est livré pas tellement à l'économie et comment il a fait campagne sur le prix des œufs, par exemple. Alors, le prix des œufs qui était surélevé à cause de l'influenza des oiseaux,
la grippe aviaire.
Et donc, on a dû détruire les poulets pour ce qui avait monté le prix des œufs. Alors là, les mesures qu'il a entreprises, comme par exemple sa campagne contre la diversité, l'équité et l'inclusion, qui s'appelle le DEI chez nous, il est dans tous les domaines du gouvernement, est en train de chasser tout ce qui participait à cette campagne de diversifier l'Amérique en général. Et ça devient le mot-clé de cette administration. Alors, je crois que les gens sont en train de se dire que ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas pour cette raison-là qu'on a voté pour Donald Trump. Donc, il a l'air de vouloir remettre la donne sur les questions économiques. C'est pour ça, je crois, qu'il a annoncé les droits de douane dont on parle, qu'il a annoncé il y a quelques jours, qui, effectivement, va changer la donne sur le plan international, changer la donne qu'on a vécu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, DEI, je ne sais pas si c'est intéressant de l'évoquer. On reviendra sur la question des droits de douane. Donc, cette appellation pour diversité, équité, inclusion, on a vu l'ambassade américaine à Paris envoyer un courrier exigeant le respect de la politique anti-DEI de Donald Trump pour tout contrat avec l'État fédéral. Les entreprises françaises destinataires devaient respecter donc les règles édictées par le président américain qui bannissent, je le rappelle pour nos auditeurs, toute discrimination positive en faveur de la diversité et de la parité homme-femme. Là aussi, c'est un abus d'extraterritorialité et d'ingérence, Stephen Dreyfus.
Je comprends pourquoi les Français le prennent comme ça, mais enfin, ils ont limité à ceux qui ont des contrats avec notamment avec l'ambassade, mais les fournisseurs de l'ambassade. C'était un élément comme un autre, c'était une négociation. Ceux qui ne veulent pas s'accorder aux exigences de l'ambassade américaine peuvent ne pas postuler à avoir des relations commerciales. Mais c'est effectivement une tentative de Donald Trump d'exporter sa politique contre la diversité vers des pays, notamment comme la France, qui tient beaucoup à ce que les gens soient traités de manière équitable, quelles que soient leurs origines. Et donc, je comprends pourquoi ça peut choquer, mais ça va dans tous les sens de l'administration. Par exemple, le secrétaire à la Défense a exigé que l'école de la Marine regarde dans sa bibliothèque et enlève tous les bouquins qui traitent des questions des droits civiques, l'histoire du mouvement de libération des minorités, qui prônent d'une façon ou une autre la diversité dans l'emploi. On va balayer.
On épure les bibliothèques.
Oui, et donc, et ça, dans l'école qui forme nos officiers de marine. Et certainement, il va faire la même chose à West Point, qui forme les militaires de l'armée. Et il vire des gens, des fonctionnaires, dont la seule activité leur reproche était de participer à des séances d'entraînement sur la diversité, équité et inclusion. Même s'ils n'avaient pas le choix. Il a regardé, est-ce que celui-là a participé à un séminaire ? Il est parti. C'est quand même extravagant.
Qu'est-ce que cela vous inspire, Stephen Dreyfus, en termes de type de régime vers lequel les Américains, les États-Unis, sont en train de glisser, selon vous ? On évoque la fin de la démocratie.
Je ne vais pas jusque-là, mais quand même, ça fait une énorme différence parce qu'il teste les eaux, comme on dit en américain. Et il essaie de voir jusqu'où il peut aller. Et s'il y arrive, bon, tant mieux pour lui. Et s'il est bloqué, il peut prétendre à ce que c'est encore une discrimination contre lui, ça fait partie de ses doléances, il est toujours victime de l'état profond, comme il aime dire. Donc ça va, c'est face je gagne, pile tu perds. Alors pour lui, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il fait l'argumentation, et comme dans toute autre matière, il va jusqu'où il peut aller sans se mettre en difficulté dans les sondages, et quand il va percevoir que les sondages descendent, baissent, il peut dire bon, j'ai accompli ce que je voulais faire, maintenant on change et on fait autre chose. Donc sa façon de faire, mais c'est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus unitaire que ce à quoi on était accoutumé. Et effectivement, on peut en parler plus tard, il y a une théorie de la droite américaine qui s'appelle la théorie de l'exécutif unitaire, qui veut faire décider par la Cour suprême que tout le pouvoir exécutif repose dans la personne du président élu et il peut tout faire sans contrainte.
Vous nous en parlerez dans quelques instants, ouais. Stephen Dreyfus, on y reviendra.
Meet Billy. Billy is living the American dream. This is his friend Trey. And his neighbor Mike. They don't know it yet. Their lives will soon change forever because they're about to see the truth.
Back in the USA du groupe Green Day qui donne une vision assez critique sur la politique américaine et les mensonges d'État. Stephen Dreyfus, on a fait cette petite intermède musicale. Vous évoquiez la théorie de l'exécutif unitaire.
Oui, effectivement, c'est une théorie parce qu'il faut savoir que nous avons, comme on l'a évoqué, les trois branches du gouvernement, exécutif, législatif et judiciaire. Et pour ce qui est de l'exécutif, au début du XXe siècle, mais plutôt à partir de 1932, quand Franklin Roosevelt est arrivé à la présidence, dans le New Deal, c'était son programme, on a commencé à instaurer des agences et des commissions exécutives qui avait un pouvoir non seulement réglementaire, mais aussi de pouvoir de décision de différents. Il y avait par exemple la SEC, la SEC, c'est le gendarme de la bourse américaine. Il y a la FTC, c'est la commission du commerce. Il y a la FCC, la commission des communications, et qui sont les régulateurs qui avaient un pouvoir de décision, aussi un pouvoir de réglementation. Alors, la théorie de l'exécutif unitaire veut dire que le président, dans sa personne, a le droit de dicter à ses commissions toutes leurs activités, y compris leurs décisions. Donc, ils ne sont plus indépendants. Il a le pouvoir de les virer, selon cette théorie, pour aucune raison, simplement pour les remplacer avec les siens. Et ce serait une révolution dans notre manière de gouverner au niveau fédéral. Or, il y avait un certain nombre de dossiers qui sont passés à la Cour suprême, et jusqu'à présent, la Cour suprême a dit « Oui, le président a ce pouvoir quand il y a une personne à la tête de cette commission en question, mais quand c'est une commission composée de plusieurs membres, il n'est pas encore jugé que le président puisse les virer. » Mais Donald Trump essaie d'attiser des conflits de ce genre pour que le bon dossier monte à l'échelle de la Cour suprême, en espérant que la majorité conservatrice de la Cour suprême va entériner cette théorie. Et en revanche, c'est aussi la question de... On a l'expression américaine « sois prudent de ce que tu souhaites » parce qu'effectivement, ça pourrait renforcer les droits d'un éventuel président démocrate aussi dans le futur.
Donc une dérive autoritaire tout de même, c'est...
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on dit ce qu'il fait... et est illicite ou au-delà de la Constitution, il répète, mais c'est moi qui ai été élu. Les juges qui cassent mes décisions, eux, sont nommés, ne sont pas élus. Alors qu'il n'y a que moi qui représente la volonté des électeurs américains. Alors ça, c'est un discours autoritaire, certainement.
On voit bien donc la volonté de Trump de s'efforcer d'étendre le périmètre de l'exécutif comme personne avant lui, finalement. Ouais. Alors, Stephen Dreyfus...
Et en même temps, excusez-moi de vous couper, après avoir eu le bénéfice d'une décision de la Cour suprême lui accordant une immunité quasi totale pour tout ce qu'il fait dans ses fonctions.
On peut imaginer d'ailleurs que les Américains ont beaucoup regardé la politique française cette semaine avec ce qui s'est passé pour Marine Le Pen. C'est pas le sujet, mais j'imagine qu'il y avait une vraie résonance de part et d'autre de l'Atlantique.
À partir du président, parce que le président, chose rarissime, a commenté la politique française, parce que la France ne joue pas dans les
cours des grands.
En Amérique, la même place que les États-Unis, ici en France. Mais il a commenté, il a dit « Ah, c'est exactement ce qui m'a été fait à moi ». C'est là ce qu'on appelle désormais en France, je comprends, l'arsenalisation de la justice. Donc, weaponization en anglais. Et il prétend toujours que tous ces fasques judiciaires étaient à cause du fait qu'il était ciblé par l'État profond pour le descendre. C'est à peu près le même discours qu'on entend aujourd'hui dans l'affaire dont vous faites référence.
Alors, vous l'avez dit, les Républicains contrôlent le Sénat et la Chambre des représentants. J'aimerais avoir votre regard sur deux choses. Ce sont d'abord les élections cette semaine. Alors, d'une part, dans le Wisconsin, où on a vu le candidat à la Cour suprême de cet État, donc du Wisconsin, qui est un État pivot, financé sans retenue par Elon Musk, être largement battu. Et puis, deux postes de députés à la Chambre donc des représentants détenus par les Républicains, qui étaient à nouveau en jeu en Floride parce que Donald Trump avait fait rentrer dans son administration et rendu vacant deux sièges républicains. Un commentaire sur les résultats. D'un côté, donc, confirmation républicaine pour les deux députés en Floride, et puis donc le candidat républicain battu dans l'État du Wisconsin.
Ce sont effectivement deux cas de figure différents. Pour les deux députés, c'était des circonscriptions fortement républicaines. Donc, il allait de soi que le républicain serait élu. Mais la marge, surtout dans l'une des circonscriptions, la marge a été bien réduite par rapport, par exemple, aux marges qu'a eu Donald Trump l'année dernière dans l'élection présidentielle dans la même circonscription. Et les démocrates en tirent des conséquences positives pour leur message. On ne peut pas l'affirmer catégoriquement, mais c'est l'indice d'une certaine fébrilité de l'électorat de Donald Trump. En ce qui concerne Wisconsin, c'est le plus intéressant, c'était que Elon Musk personnellement s'est investi pour le candidat républicain de manière extraordinaire. Il a même donné $1 million à deux électeurs de Wisconsin en contrepartie de leur engagement pour voter républicain. C'était porté jusqu'à cette même Cour suprême de l'État qui l'a validé. Et donc, après avoir pris une position personnelle très forte en faveur des républicains, il a vu le démocrate gagner avec une marge importante de victoire. Donc, c'est un revers pour Elon Musk personnellement, ce qui a donné lieu ensuite à des suppositions que peut-être ces jours à l'administration étaient.
C'est ce que dit la presse américaine, effectivement. Il est sur le départ, Elon Musk, d'après vous, Stephen Dreyfus?
Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Donald Trump le nie, mais ça ne veut rien dire parce qu'il nie toujours avant de le faire. Et quoi qu'il en soit, Elon Musk a d'autres chat à fouetter, parce que quand même, il y a des problèmes de ces entreprises, notamment de Tesla, avec les ventes qui chutent, en partie, dit-on, à cause de son implication dans l'administration Trump. Il y a, par exemple, c'est une marque qui a été achetée par des gens qui étaient soucieux, notamment de l'environnement, de la protection de l'environnement. Ce sont des gens qui ont tendance plutôt démocrate. Alors, ceux qui sont dans cette position ont abandonné, tout d'abord, ils ont vendu leur voiture pour faire une déclaration de foi, et aussi, ils ne rachètent plus. Donc, il y a une grande chute à la fois des bénéfices et de la quantité de véhicules qui sont vendus, aussi bien en Europe que chez nous. Donc, Elon Musk serait éventuellement d'accord de rentrer chez lui et d'être occasionnellement le conseiller de Donald Trump, mais pas de gérer ce fameux département de l'efficacité gouvernementale qui dirige, qui n'en est pas un département, une façon de dire qui conseille le gouvernement.
Alors, j'aimerais revenir sur les républicains la façon dont ils réagissent à la politique de Donald Trump. Là aussi, cette semaine, on a vu un début de rébellion avec 9 élus républicains qui se sont joints aux démocrates pour un texte sur lequel je ne vais pas revenir parce que c'est trop compliqué, mais tout de même, c'est un signe. Et puis, on voit parallèlement les démocrates à qui l'on reproche un silence assez abyssal depuis le 20 janvier dernier, et bien finalement prendre le dessus sur le plan politique avec ce sénateur démocrate qui a tenu pendant 25 heures le micro donc au Sénat. Alors aidé en cela par certains démocrates qui lui ont posé des questions très très longues pour le faire respirer, mais 25 heures. Les choses sont en train de bouger, Stephen Dreyfus.
Dans le Parti démocrate, on essaie de trouver une façon d'exister. Parce que jusqu'à présent, ils étaient tous tellement déboussolés, il n'y avait pas un vrai leader qui s'est manifesté et ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait des forts, des gens qui voulaient contester ouvertement, il y avait des gens qui étaient plus traditionnels pour vous dire « essayons de faire quelque chose de moins mauvais avec la majorité ». Et donc, il y a une résistance qui est en train de se créer. Et effectivement, ça rappelle, il y avait un grand film avec Jimmy Stewart qui était « Monsieur Smith va à Washington » où il faisait exactement ce qui a été fait par le sénateur Cory Booker de New Jersey. Donc, se tenir debout pour bloquer une mesure. Alors là, c'était en fer de lance, il était en train de vouloir susciter une réaction chez les électeurs pour dire maintenant il faut commencer à résister.
C'est ce qu'on attend des démocrates. Côté républicain, peut-être effectivement un début de rébellion, mais au-delà de cela, j'aimerais que vous nous expliquiez si au jour d'aujourd'hui, l'administration Trump est vraiment unie ou s'il y a des courants plus ou moins divergents et comment vous les... Voilà, quelle description vous pourriez nous faire de ces courants?
Il y a des courants et on a vu dans l'histoire de cette fameuse chat qui a eu sur Signal où on
a une conversation qui a été détournée.
C'est-à-dire où c'était une conversation sur les hauts responsables de la stratégie américaine sur l'attaque qu'on allait faire
au Yémen.
Au Yémen. Et c'était avant le lancement de l'attaque que les plans d'attaque en détail ont été communiqués de cette façon-là, qui n'était pas du tout sûr, ce n'est pas le réseau normal. Et le conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, M. Walz, avait mis en ligne un journaliste, le rédacteur en chef de la revue L'Atlantique, qui est une revue de gauche, et qui était mis en ligne et qui écoutait et regardait tout ce qu'il disait. Mmh. Et donc là, il s'avère que ce responsable de la sécurité nationale à la Maison-Blanche, qui était l'un des députés de Floride, qui a été remplacé, et qu'on a remplacé dans les élections qui viennent de se faire, il représente une aile du Parti républicain plutôt traditionnelle, plutôt conservateur, mais pro-défense. Alors qu'il y a l'autre volet du Parti républicain, c'est les MAGA, les Make America Great Again, qui sont des fidèles de Trump, qui, eux, sont plus isolationnistes. Et donc, ils ne veulent pas que l'Amérique exerce son pouvoir à l'étranger. Ils se reculent vers s'occuper des affaires nationales. Et représenté par Donald Trump qui dit « Ah, on n'a pas à se faire tellement de l'Europe, parce qu'on a un bel océan entre nous. Mmh. Alors, un bel océan qu'on peut traverser dans 3 minutes avec une fusée de n'importe où dans le monde. Mmh. Donc, c'est un retour à l'Amérique isolationniste. Et donc, il y a une lutte interne. Parce que les gens de l'aile MAGA voulaient que Trump licencie, vire M. Walz à cause de cette erreur. Et Trump a voulu le garder. Donc, il y a un va-et-vient et une lutte contre cette idée. Et donc, au Sénat, alors, la Chambre est acquise complètement au MAGA. Mais au Sénat, il y a quand même des sénateurs qui bénéficient, parce qu'à la Chambre, le mandat n'est que 2 ans. Donc, ils sont en campagne permanente. Alors qu'au Sénat, ils ont un mandat de 6 ans. Donc, le Sénat renouvelé par entière tous les 2 ans. Alors, les sénateurs qui ont encore 4 ou 6 ans à siéger sont plus indépendants. Il y en a qui ne sont pas d'accord, notamment avec les droits de douane qui viennent de s'imposer, notamment avec le manque de soutien qu'on donne désormais à l'Ukraine, à la sympathie à la ligne russe qui est montrée par les déclarations de l'administration. Donc, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, parfois, ils trouvent le courage de dire non.
Alors, Stephen Dreyfus, vous évoquiez la Chambre des représentants. Les représentants dont les mandats sont renouvelables tous les 2 ans. Des rumeurs évoquent l'idée que Donald Trump pourrait annuler les prochaines élections de mi-mandat de novembre 2026.
Alors ça, j'en ai entendu des rumeurs, mais pas cette rumeur-là. Pour moi, je considère que c'est inconcevable. Parce que c'est une élection qui est organisée au niveau de l'État, de chaque État. Donc, il faudrait que les États soient d'accord pour annuler. Et je peux toujours avoir tort, mais je peux vous assurer qu'il y aura ces élections-là. La raison pour laquelle il voudrait ou il aurait pu vouloir le faire, c'est parce que c'est presque constant dans la politique américaine que le parti qui occupe la Maison-Blanche perd des sièges dans les élections de mi-mandat. C'est-à-dire, parce que le mandat du président, c'est 4 ans. Donc, après les premières deux années, il y a une élection de mi-mandat qui renouvelle la Chambre. Et effectivement, il n'a pas énormément de sièges à perdre, parce que désormais, avec les 2 qu'il a gagnés mardi dernier, la majorité n'est que enfin, 7 sièges, mais ça veut dire que si il ne peut se permettre que 4 députés qui est républicains qui ne votent pas avec le président, plus que ça, ça bascule et il sera la défaite législative. Donc il a un peu plus de place et de calme dans sa majorité, mais très peu. Donc avec une majorité comme ça pour les élections de mi-mandat l'année prochaine, il est probable, normalement dans l'histoire politique américaine, que les républicains perdent le contrôle au moins de la Chambre.
La Chambre des représentants. Ouais. Alors, Stephen Dreyfus, on parlera bien sûr de la politique étrangère. On l'a évoqué rapidement avec la question des droits de douane. Mais pour rester à la situation intérieure aux États-Unis, j'aimerais comprendre. On a évoqué ce, non pas début de rébellion, mais enfin voilà, je pense que tous les Américains ne sont pas forcément d'accord à 100% sur la politique qui est menée par Donald Trump. Est-ce que cette situation est d'après vous durable? Et quand est-ce qu'on va vraiment commencer à voir les choses se dessiner de manière plus claire sur le plan intérieur américain?
Enfin, moi, je dirais le meilleur signe serait, ou la première signe serait ces élections
justement,
de mi-mandat.
Justement, les élections de mi-mandat, donc novembre 2026.
Oui, et donc il faut attendre. Et alors, voyons s'il y a des excès par Donald Trump qui vont susciter des manifestations dans la rue. On n'a pas la même tendance qu'en France de descendre dans la rue qu'il y a un désaccord. Et donc, pour que l'Amérique descende dans la rue, il faut que ce soit grave.
Il y a quand même eu des manifestations. Il y a des manifestations. Il se passe des choses tout de même.
Oui, oui. Il y a eu. Mon impression à moi, c'est que c'est moins aigu la réaction cette fois-ci parce qu'on savait ce qui allait arriver. Avec le premier mandat de Donald Trump, même Donald Trump était étonné de sa victoire. C'est évident parce qu'il n'avait rien préparé. Et il avait nommé des gens au poste clé qui étaient issus de le parti républicain traditionnel qui n'allait pas très bien avec sa façon de gouverner et donc qui était viré assez vite. Il y avait beaucoup de changements de postes importants. Alors qu'aujourd'hui, cette fois-ci, il a pris soin de nommer des gens qui sont complètement acquis, pour la plupart, à son aile du parti républicain. Et il était important de savoir que quand on prête serment en tant qu'officiel du gouvernement américain, on prête serment pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Pas la personne du président, mais à la Constitution. Or, quand la nouvelle procureure générale, Attorney General, Pam Bondi, a pris serment, elle a pris le serment nécessaire, mais dans son discours, elle a dit... On est là pour vous, monsieur le président. Et donc, c'était sa loyauté à la personne du président, c'est ce qui exige Donald Trump désormais. Et c'est ça qui fait peur, parce que ça devient un culte de la personnalité. Et on fait les comparaisons à l'arrivée des nazis, aux différents pays autoritaires dans le monde, et à son admiration évidente pour Poutine, Xi Jinping. Victor Orban, il aime des gens autoritaires qui considèrent comme forts. Donc, ça nous fait peur un peu.
Alors, le retournement de la politique étrangère américaine est-il irréversible? C'est la question que je vous poserai dans quelques minutes. There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don,
There's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down, and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.
Alors c'était Woody Guthrie qui compose des chansons exprimant les luttes des pauvres et des opprimés. Stephen Dreyfus, vous êtes notre invité, avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York et ancien président de l'Union internationale des avocats, on parle des États-Unis, et vous me disiez en écoutant cette musique que c'était la musique du pays de Trump.
Oui, parce que les soutiens de Trump sont dans l'Amérique profonde et ça, c'était de la musique country western, comme on dit, qui est très écoutée dans les États dits rouges, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu Donald Trump aux élections.
Les États républicains par opposition aux États bleus, qui sont les États démocrates.
C'est oui, toujours je bien comprends, de je comprends peu... en Europe, quand vous dites État rouge, ça peut confondre.
Donc, vous avez raison, tout à fait. Alors, on l'a évoqué en début d'émission, Stephen Dreyfus, cette semaine, la montagne de nouvelles taxes sur les produits entrant aux États-Unis. Quelle est votre réaction en tant qu'Américain à cette décision?
Bon, ça va à l'encontre de l'approche républicaine avec un grand air, c'est-à-dire du parti républicain traditionnel qui est libre-échangiste. Mais là, Donald Trump a toujours été un dévoué des droits de douane. Il a toujours cru que c'est la solution et il voit la question dans les termes qui ne correspondent pas du tout à l'avis de la plupart des économistes. Parce que lui, il continue à dire que c'est les pays étrangers et exportateurs qui vont payer ces droits de douane. Mmh. Alors qu'en réalité, c'est l'entreprise américaine qui veut importer les produits étrangers, qui lui est imposé et qui doit par la suite... repasser le coût ou une grande partie du coût aux consommateurs américains. Donc finalement, l'expérience a toujours été que ça résulte dans une inflation des prix pour les consommateurs du pays qui a imposé les droits de douane. Or, c'est pour ça que, comme Trump a dit que mercredi dernier était jour de la libération de l'Amérique, les démocrates sont en train de dire que c'est le jour de la récession américaine, parce que pour eux, ça va finir par créer une récession ici, enfin chez nous, aux États-Unis, et éventuellement globalement. Mais surtout que le but affiché de l'imposition de ces droits de douane, ce qui serait d'inciter les entreprises étrangères à venir fabriquer aux États-Unis, embaucher des Américains, ne sera pas le résultat principal. Et aussi, il y a des effets secondaires qui sont extrêmement importants, parce que ce n'est pas noir et blanc. Il y a, pour les automobiles, où est imposé des droits de douane de 25% pour les automobiles venant, par exemple, du Canada, même s'il est suspendu pour l'instant, il y a un va-et-vient des pièces détachées et de la construction des voitures qui ne respectent pas la frontière. Et c'est pareil pour, par exemple, pour l'aviation. Même si c'est Boeing qui construit un avion, les pièces détachées viennent de partout dans le monde. Donc il y a des effets où un sursaut des prix, c'est-à-dire une augmentation des prix à la fabrication, qui auront des incidences sur les Américains. Par exemple, là, l'engrais pour les agriculteurs américains, l'engrais vient du Canada. Ils sont obligés de l'acheter de l'étranger. Ça va revenir à augmenter les coûts de l'agriculture et éventuellement les coûts au supermarché. Donc, pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Mmh. Et la question de savoir combien de temps faudra-t-il avant que ces effets se fassent ressentir. Mmh.
Alors, si on pousse plus loin cette politique américaine et la façon dont les alliés ou les adversaires, on ne sait plus très bien comment les appeler, doivent riposter. Imaginons, on assiste à un désengagement, une volonté de désengagement des Américains en Europe, notamment sur le plan militaire. Si demain les Européens s'arrêtaient d'acheter du matériel militaire aux Américains, ce sont des entreprises entières qui font faillite. Stephen Dreyfus.
Je n'ai pas étudié cette situation-là, mais il faudrait encore que les Européens soient en mesure de se fournir ailleurs, et notamment en Europe. Mmh. Alors, ce qui était intéressant pour moi en tant qu'observateur étranger en France, c'est que j'avais l'impression que politiquement, le président Macron était en perte de vitesse ici jusqu'à ce que Donald Trump arrive à la Maison Blanche. Et du coup, le président Macron devient le leader de la renaissance européenne en matière de défense et d'autres, profitant notamment du vide annoncé à la politique allemande avec le changement de chancelier. Et donc, c'est une aubaine pour le président Macron. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce que voulait Donald Trump. Parce que Donald Trump disait « il faut que les Européens prennent la responsabilité de leur propre défense ». Alors Macron dit « oui ». Je suis d'accord. Et ça a été, comme vous le savez bien, la position de la France depuis très longtemps. Oui. Et donc, je crois que Emmanuel Macron ne serait pas le président ou le chef d'État européen le plus détesté par Donald Trump, parce qu'il a agi de manière conforme, pour des raisons différentes évidemment, mais conforme aux souhaits de Trump.
Alors on va rester en Europe pour évoquer donc cette fracture finalement entre l'Europe et les États-Unis que Donald Trump est en train de créer. La question de la réversibilité de cette fracture se pose. Stephen Dreyfus, est-ce que il pourra jamais un jour y avoir retournement? Et la normalisation de Moscou, entre Moscou et Washington, est-ce que c'est une normalisation qui, d'après vous, va durer? Enfin, là aussi, comment l'Américain que vous êtes et les États-Unis voient cette évolution? Je pense à l'Europe, peut-être. Les Américains sont attachés encore à l'Europe.
Non, mais c'est une question qu'il faudrait poser d'abord aux Européens. Parce que l'Europe sait maintenant que la politique étrangère américaine peut basculer dans une élection du jour au lendemain. Et donc, moi, je suppose que les Européens n'auront plus, quelle que soit l'élection à venir, n'auront plus la même confiance dans la politique étrangère, le soutien américain. Parce qu'ils savent qu'avec une élection, ça peut basculer. Or, si, par hasard, les démocrates étaient élu à la présidence en 2028, il est clair que la politique envers l'Europe changerait, ressemblerait plus à ce qu'elle a été avant Donald Trump. Mais pour les Européens, ils ne peuvent pas se dire on n'a rien à faire pour nous occuper de nous-mêmes parce que l'Amérique est de retour, parce que ça peut changer encore en 2032.
Donc
ça a changé la donne d'après-guerre de manière, à mon sens, définitive.
Alors, sur la relation entre Poutine et Donald Trump, comment, là aussi, vous voyez les choses? Est-ce que, notamment, Trump saura, d'après vous, contenir les ambitions de la Russie et de quel genre d'alliance il s'agit, Stephen Dreyfus?
On a du mal à comprendre. Parce qu'au début, on pensait que Poutine devait avoir quelque chose sur Donald Trump, comme on dit en américain. C'est-à-dire, il a dû y avoir quelque chose où il a été pris en flagrant délit ou on ne sait pas quoi, et que Poutine fait du chantage. Mais maintenant, c'est plus que ça. On ne pense plus tellement que c'est ça. C'est que Donald Trump a une admiration à l'homme fort, à l'autoritaire, qui répond en quelque chose en lui qui lui aussi aimerait être comme eux. C'est pour ça qu'il affiche ouvertement son admiration pour Poutine, alors qu'il y a beaucoup de sénateurs républicains qui qualifient Poutine de criminel de guerre, d'assassin, de mafieux. Et pour Trump, c'est une admiration. Donc on a du mal à encaisser ça, sauf que je constate qu'il y a un grand pourcentage des Américains aujourd'hui qui n'ont pas vécu l'ère de l'Union soviétique. C'était l'empire du mal, comme disait Ronald Reagan. Alors, ceux qui sont nés depuis n'ont pas la même méfiance de tout ce qui est russe et des chefs d'État russes. Mais on a quand même du mal à encaisser et approuver cette admiration affichée par Donald Trump, surtout en face d'une Ukraine héroïque, un président ukrainien qui suscite une grande admiration chez nous, même parmi les citoyens qui sont soutiens de Donald Trump. Et donc, cet épisode au bureau ovale de la Maison Blanche où ils ont humilié le président Zelensky, ça passait très, très mal. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que les Américains ne votent pas sur la politique étrangère. C'est la politique nationale, l'économie, parce qu'il y a deux questions au sondage américain qui sont les plus importantes. D'abord, est-ce que M. Trump se préoccupe des gens comme moi? Il a fait un score remarquable là-dessus. Et la question qui va se poser lors des prochaines élections, est-ce que votre vie est meilleure depuis l'arrivée de Donald Trump? Et c'est sur la réponse que vont faire les gens en 2026, notamment sur cette question, qui va déterminer le reste du mandat de Donald Trump.
Oui, la politique étrangère qui interfère assez peu dans la politique américaine et au moment de donner son bulletin dans l'urne. J'avais plein d'autres questions, mais malheureusement, le temps tourne très vite, Stephen Dreyfus. Trump nous a fait entrer dans un monde où la force prime sur le droit. Et la question qui se pose, c'est comment le monde doit-il réagir? J'ai une question un peu directe à vous poser. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux Européens?
Intéressant. Je suis pris au dépourvu, mais la réponse honnête, c'est de dire occupez-vous de vous-même. Parce que vous ne pouvez pas, pendant la durée de Donald Trump à la Maison-Blanche, vous fier à la protection américaine. Parce que pour Donald Trump, la question serait simplement, non pas, je dirais même, quel est l'intérêt des États-Unis d'Amérique, mais quel est l'intérêt de Donald Trump. Et ces questions-là n'ont pas toujours la même réponse.
À l'Europe de s'occuper d'elle-même.
Ouais.
Merci Stephen Dreyfus. Je rappelle que vous êtes avocat américain, ancien procureur à New York, ancien président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York et ancien président de l'Union internationale des avocats, et que votre français est absolument extraordinaire. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golshani et Cécile Lavolo. N'oubliez pas que vous pouvez également écouter Géopolitique en podcast sur Pure Radio ou votre plateforme préférée, et aussi vous abonner. Enfin, restez avec nous. Après le journal, nos programmes continuent. À suivre, L'art de raconter le monde et le magazine Idées.